Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
C'est un grand standard de l'histoire du jazz africain-américain qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires. Il s'agit de Giant Steps, extrait de l'album du même nom, paru en janvier 1960 et signé John Coltrane. Ce légendaire saxophoniste fait l'objet d'une riche biographie qui nous permet de toucher du doigt la personnalité, le génie, le mysticisme d'un homme dont la destinée fulgurante continue de susciter bien des commentaires, comme va nous le confirmer notre invité du jour, Franck Medioni. Soyez le bienvenu.
Merci.
Vous êtes donc l'auteur de John Coltrane, L'amour suprême, disponible chez Castor Music. Ce n'est pas votre premier ouvrage consacré à cet immense saxophoniste. Vous aviez encore tant de choses à dire ?
Il y a beaucoup de choses à dire, il y a toujours des questions, il y a toujours des phases de son parcours musical et aussi de sa vie qui interrogent. Donc j'ai voulu creuser le sillon, voire le micro-sillon davantage, et de voir un peu ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est quel est le processus musical. C'est un musicien exceptionnel en termes saxophonistiques, en termes de parcours musical, parce que vous le savez, le parcours est fulgurant, c'est quasiment 12 années de musique. Si on considère qu'il débute vraiment en 1955 avec le quintet de Miles Davis jusqu'à 1967, 17 juillet 1967, l'année de sa mort, il y a un parcours fulgurant, il est musique, il n'est que musique, et il se passe énormément de choses en très peu de temps.
Pourquoi John Coltrane suscite-t-il tant d'admiration, de réflexion et de passion toujours aujourd'hui ?
Parce que le parcours est exceptionnel. Le musicien, pour avoir rencontré un certain nombre de saxophonistes, et pas des moindres, que ce soit Archie Shepp, Chris Potter ou Michael Brecker ou Joshua Redman, ils ont tous une admiration sans borne pour ce saxophoniste qui n'est pas comme les autres. Pour certains, un saxophoniste un peu extraterrestre, il a quand même poussé la pratique de cet instrument presque au-delà de ses possibles. Puis aussi la figure de l'homme spirituel, l'homme mystique, l'homme de bonté qui impressionne. Il y a une aura, les gens, voilà, il y a un regard, il y a une force, il y a une aura Coltrane, oui.
L'épopée de John Coltrane semble être connue de tous aujourd'hui et pourtant vous avez une fois de plus réussi à attiser notre curiosité à travers des anecdotes, un récit très précis et les interventions de ses disciples et amis, de James Carter à Steve Coleman, de Joshua Redman à Wynton Marsalis, en passant par le président Bill Clinton, le guitariste John McLaughlin, sans oublier la préface du saxophoniste Archie Shepp. Quel est le dénominateur commun à toutes ces déclarations? Comment perçoivent-ils John Coltrane?
Alors, ils le perçoivent tout d'abord comme un musicien, on l'a dit, exceptionnel, avec une musique qui transperce, une musique qui bouleverse, et puis qui surprend toujours par son invention mélodique, par sa maîtrise saxophonistique. Et puis, je le disais précédemment, c'est aussi l'homme. Elvin Jones, batteur de John Coltrane, du quartet légendaire, le dit, John Coltrane est un homme de bonté, John Coltrane est un saint, c'est-à-dire qu'il incarne la bonté, la douceur. Et tous les musiciens ont une grande admiration et pour l'homme et pour le musicien qui ne fait qu'un. C'est ce qui fait sa beauté aussi.
Pourquoi était-il essentiel d'ouvrir cette biographie avec les mots de Archie Shepp ?
Archie Shepp a été un compagnon de musique, de vie de John Coltrane. Dans les années 60, John Coltrane épouse le mouvement free jazz et un certain nombre d'autres saxophonistes. C'est Archie Shepp, mais c'est aussi Albert Ayler, c'est aussi Pharoah Sanders, Marion Brown ou John Chikai qui sont soutenus par John Coltrane, soutenu, fait travailler pour le label Impulse, qui est le label de référence de cette musique, et Bob Till, avec qui John Coltrane a beaucoup travaillé. Donc il les épaule et il travaille beaucoup avec eux. Et Archie Shepp considère Coltrane comme un maître de musique. Il a quand même beaucoup travaillé avec lui. Il y a cette séance à Sunshine auquel il a participé. Donc pour Archie Shepp, comme d'autres saxophonistes avec qui il a travaillé, Coltrane est un phare.
Dans cette émission, Franck Medioni, nous allons d'une certaine manière traduire par des sons votre travail écrit. Je vous propose d'écouter Archie Shepp, 80 ans, évoquer son ami et mentor. C'était en juillet 2017 à Vienne, en France.
Je me souviens de M. Coltrane comme un homme très gentil qui était toujours disponible pour des gens, des jeunes, des générations qui a suivi et qui étaient beaucoup inspirées par lui. Il était toujours prêt à partager sa musique, ses idées. Et comme j'ai dit, même qu'il n'a pas parlé beaucoup de politique, j'ai trouvé un côté dans sa musique puissant. Dans ce côté, il est un provocateur. Il m'a montré le chemin de trouver ma libération. Il y avait des choses pas dites, mais comprises. Quand j'étais avec lui.
Franck Medioni, est-ce que vous partagez le sentiment d'Archie Shepp quand il dit que Coltrane était un provocateur ?
Oui, il provoque l'émotion certainement, évidemment, mais dans ce que dit Archie Shepp, c'est en termes politiques. Alors, on sait bien que la musique est une belle muette, mais quand, comme Coltrane dans les années 60, on s'engage dans le free jazz black power, c'est un combat qui est pacifique de la part de Coltrane, mais c'est un combat qui est aussi politique.
Alors, revendicateur.
Revendicateur. Le jazz, c'est une clameur, c'est un porte-voix. Il y a ce peuple noir américain qui subit, on peut dire, l'oppression, qui subit au quotidien. Et forcément, John Coltrane a connu ça, ce racisme ordinaire de l'Amérique blanche. Donc, il est dans la revendication pacifique. Autant Archie Shepp est très politique et le point est élevé très haut, autant Coltrane est pacifique parce que c'est un homme de foi, de ferveur, et c'est un homme de paix, mais à sa façon, il revendique et il conteste.
Aujourd'hui, plus de 50 ans après sa disparition, la musique de John Coltrane fascine toujours. On connaît les grandes lignes de son aventure musicale, mais beaucoup moins sa vie personnelle et notamment sa jeunesse. De quel milieu social est-il issu ? Et est-ce qu'il vivait déjà dans un environnement jazz dès son enfance ?
Alors, famille très modeste, il va surtout vivre à Philadelphie avant de s'installer par la suite à New York. Ce qui est important, je pense, dans l'enfance de Coltrane, c'est environnement religieux, puisque son grand-père, le révérend Blair, officie À l'église et Coltrane, la musique, comme beaucoup de gens, Aretha Franklin et beaucoup d'autres, c'est à l'église principalement que la musique apparaît dans sa vie. Il y a l'église, c'est très important, ça va le suivre toute sa vie, puisque c'est un homme religieux. En 1957, il dit « J'ai fait la rencontre de Dieu », c'est un homme mystique. Ça, c'est une dimension importante de ce musicien. Et puis, ce qui est aussi important et essentiel, c'est la radio. Puisque tout jeune, les radios américaines diffusent sur les ondes les concerts de Duke Ellington. Et c'est par la radio, parce que le disque, je ne pense pas qu'il y avait accès, par la radio, il va découvrir le jazz, il va découvrir des musiciens, Johnny Hodges dans l'orchestre de Duke Ellington. Et après, il va pouvoir, à Philadelphie, par exemple, découvrir le maître Charlie Parker.
À quel moment la musique devient une passion obsédante pour John Coltrane ? Est-ce que c'est à l'armée en 1946, quand il commence à jouer dans l'orchestre militaire, est-ce que c'est beaucoup plus tard ?
Il y a l'armée, c'est important. Il y a un moment, je pense, qui est assez décisif dans la jeunesse et aussi la vie de John Coltrane, c'est lorsqu'il perd son père. Mais il y a aussi d'autres décès dans la famille Coltrane, ils sont esseulés, et certainement qu'à ce moment-là, la musique va, d'un point de vue presque thérapeutique, faire office de père, va remplacer. Et c'est à ce moment-là, il y a un grand vide. La musique, à ce moment-là, joue un rôle presque de viatique. Il s'engage très profondément dans la pratique musicale à ce moment-là, oui.
En lisant votre ouvrage, Frank Mediani, j'ai le sentiment que c'est le 5 juin 1945 à Philadelphie que Coltrane bascule vers la frénésie du jazz en découvrant le son de Charlie Parker, interprétant Night in Tunisia, avec Dizzy Gillespie. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui, oui, c'est un moment très important. Charlie Parker, c'est un des créateurs du bebop avec Dizzy Gillespie. C'est un phénomène assez exceptionnel. Et Coltrane, pour la première fois, rencontre, et même il est allé le voir, hein. Il l'a touché même, le maître Charlie Parker, dans les années 40-50. Charlie Parker, c'est la référence suprême pour tous les saxophonistes. Et John Coltrane, il fait ses armes saxophonistiques en écoutant et en travaillant Charlie Parker. Alors, c'est pas le même instrument. John Coltrane, c'est le saxophone ténor. Charlie Parker, c'est le saxophone alto. Mais on est dans la même musique. Il faut dire une chose, Coltrane est un travailleur acharné. Il travaille, il travaille, il travaille. Quand il ne travaille pas, il joue. Et quand il ne joue pas, il travaille.
Comme nous avons décidé de ponctuer votre propos de déclaration sonore, voici le fameux moment que vous relatez dans votre livre quand John Coltrane et son ami Benny Golson découvrent pour la première fois A Night in Tunisia.
A great big hand for A Night in Tunisia by a wonderful organization.
The name was not A Night in Tunisia. The original name was Interlude.
Le nom de cette composition n'était pas à l'origine Night in Tunisia, c'était Interlude. Dizzy Gillespie a changé le titre un peu plus tard, mais l'intérêt de cette œuvre, c'est son originalité. Nous n'avions jamais entendu un truc pareil. Nous assistions, John Coltrane et moi, à un concert de Dizzy Gillespie et Charlie Parker à Philadelphie. Il y avait une humeur latin jazz qui ne nous emballait pas plus que ça. Et puis ils ont joué ce titre, Interlude, devenu Night in Tunisia. Charlie Parker a entamé un solo invraisemblable, deux fois plus long que d'habitude. Quand j'ai entendu ça, j'ai failli tomber à la renverse. J'ai hurlé de bonheur comme le faisaient les fans des Beatles. Après le concert, nous avons tout fait pour obtenir un autographe de Charlie Parker. Comme le concert avait eu lieu dans l'après-midi, John Coltrane et moi-même avons décidé de pister Charlie Parker dans la ville toute la journée. On a longtemps évoqué cet épisode ensemble et on en rigolait souvent.
Frank Medioni, dans l'introduction de votre biographie consacrée à John Coltrane, vous divisez son parcours musical en trois périodes. 1957-1959, 1960-1964 et 1965-1967. Comment décririez-vous sommairement ces trois séquences de son évolution musicale ?
Alors, première partie, l'évolution harmonique avec les Coltrane Changes. Alors, c'est un petit peu technique, c'est une façon voilà, d'aborder le saxophone. Et on va dire, pour simplifier, d'aller dans la verticalité. C'est aussi l'ascension religieuse, mais elle passe aussi par la technique instrumentale. La deuxième partie, on va dire, c'est les années 1960-1964, et c'est le quartet historique, quartet de légende, avec le pianiste McCoy Tyner, le contrebassiste Jimmy Garrison et le batteur Elvin Jones. Là, c'est le cœur atomique de la musique de Coltrane.
Clairement.
C'est à ce moment-là que sa musique se déploie pleinement. Et troisième partie, une fois que le quartet a été dissous, parce que Coltrane se dirigeait vers d'autres musiques et le free jazz, 64-67, la troisième partie.
Quelle est votre période préférée, justement, parmi celles que nous avons citées ? 1957-59, 1960-64 ou 1965-67 ?
Bonne question, les trois. J'ai une tendresse particulière pour Blue Train, par exemple, qui est la période hard bop, les années 50. Bien sûr, comme beaucoup d'amateurs de jazz et d'amateurs de la musique de Coltrane, les années 60 et le quartet, c'est à ce moment-là que ça se déploie. Il y a quand même un disque, si je peux me rendre utile une fois dans ma vie et aux auditeurs de votre émission, s'ils ne connaissent pas, il y a un disque qu'il faut écouter, réécouter, c'est Crescent, disque du quartet. C'est un disque qui, d'une certaine façon, synthétise tout l'art coltranien. S'il y avait un disque, il y en a beaucoup. Hein.
C'est
Coltrane,
vrai.
C'est un océan de musique et on y vient, on n'en sort jamais, on y retourne toujours. Mais ce disque-là, en particulier, Crescent, est inépuisable.
Vous consacrez tout de même 70 pages au fameux quartet de John Coltrane avec donc Jimmy Garrison à la basse, Elvin Jones à la batterie et McCoy Tyner au piano. Ce sont des noms qu'il faut vraiment retenir. Pourquoi ce quartet a marqué les esprits ?
Il marque les esprits parce que il est dans les années 60 le groupe phare de jazz. Il y en a deux, on va dire, hein. Soyons sérieux. Il y a le deuxième quintet de Miles Davis.
C'est vrai.
Avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams. Et puis, il y a ce groupe-là qui est à son apogée dans les années 60, qui joue beaucoup aux États-Unis, qui enregistre beaucoup. Et c'est un groupe qui est exceptionnel dans sa durée.
Et il a duré 5 ans.
Et il a duré 5 ans, ce qui, quand même, est assez exceptionnel. Et puis, bien sûr, musicalement, il a été en permanente évolution, ascension. Forcément, je vais dire une banalité, plus on joue, plus la cohésion, la cohérence se crée. Le tandem John Coltrane, Elvin Jones est exceptionnel. Et c'est un groupe, c'est pas seulement John Coltrane quartet. Le jazz, c'est l'un avec l'autre et l'un par l'autre. Sans Elvin Jones, probablement que John Coltrane ne serait pas devenu John Coltrane. Et puis McCoy Tyner, il joue un rôle important aussi, harmonique et essentiel. Et puis il y en a un qu'on oublie souvent essentiel, c'est Jimmy Garrison, qui a un sens rythmique très fort. Et c'est lui aussi, avec Elvin Jones, qui donne l'impulsion au groupe et qui permet à Coltrane de déployer ses ailes pleinement.
Et puis, l'époque durant laquelle ce quartet a œuvré était plutôt bouillonnante, avec le mouvement des droits civiques notamment. Diriez-vous que John Coltrane était un activiste à travers sa musique ?
Je dirais que c'était un activiste, oui, il est en action, un guerrier de la paix. On l'a dit, c'est un homme de bonté, de paix. Et puis, il touche au cœur, il touche aux consciences et aux consciences politiques, oui.
Je vous pose cette question car le titre « Alabama » est une œuvre plutôt engagée de John Coltrane, comme nous le confirme votre homologue américain Ashley Kahn.
Coltrane a créé ça après l'assassinat de quatre jeunes filles dans l'Alabama, dans une église. Et après, qu'est-ce que c'est la réponse? C'est pas protestation, c'est pas colère, c'est méditation. Et c'est un peu melancholy, un peu tristesse, mais c'est une appel pour méditation.
Avant que vous ne réagissiez aux propos d'Ashley Kahn, Frank Medioni, je vous propose d'écouter à présent le batteur de John Coltrane, le regretté Elvin Jones, qui à notre micro en 2003 revenait sur cette composition Alabama, composée 40 ans plus tôt.
Il y a toujours des événements qui provoquent des réactions appropriées. L'un des exemples auxquels j'ai pris part date des années 60, quand John Coltrane avait entendu parler de ces gamines noires qui furent tuées lors d'une explosion dans une église baptiste en Alabama. Cette nuit-là, il a écrit le titre « Alabama » et le lendemain, nous étions en studio pour l'enregistrer. Ce fut l'une des séances d'enregistrement les plus poignantes que j'ai vécues. Nous avions tous les larmes aux yeux. Si ce genre d'événement ne vous remue pas, c'est que vous n'avez pas de cœur. Voilà ce que j'appelle une œuvre inscrite dans l'histoire. Elle véhicule à jamais une énergie particulière. Il est seulement dommage que ce soit ce genre de drame qui insuffle une énergie nouvelle à la musique. Mais en l'occurrence, une tragédie a provoqué une réaction, un événement artistique. La créativité, par définition, s'inscrit dans l'instant, le moment, et lorsqu'on est créateur, l'éclair de génie survient presque en avance sur l'événement. C'est ce qui le rend unique.
Frank Medioni, diriez-vous que cette œuvre, Alabama, est plus méditative que protestataire, comme semblent le dire Ashley Kahn et Elvin Jones?
Oui, c'est méditatif, c'est davantage aussi peut-être, j'entends ça comme une plainte, une complainte, un requiem. C'est très poignant, c'est d'une mélancolie totale, en même temps c'est d'une beauté qui nous attrape comme ça. Ce titre est pas un titre comme les autres dans le parcours musical de John Coltrane, parce qu'on l'a dit, autant il était dans la spiritualité, autant l'engagement politique n'était pas prégnant. Et ce titre-là, Alabama, dit sa conscience politique très forte. On sait aussi qu'il a assisté à une réunion de Malcolm X. Il vivait dans le monde et il était au courant de l'actualité, bien sûr. Mais ce titre-là, Alabama, c'est le titre qui dit la souffrance et qui dit la conscience politique forte de Coltrane.
Est-ce que cette composition marque peut-être aussi le début du Coltrane mystique et spirituel?
Ça participe, certainement. Ça participe parce qu'il est, depuis 1957, dans le religieux, il dit en 1957, j'ai rencontré Dieu, et puis il s'intéresse à toutes les cultures, il s'intéresse à l'islam, il s'intéresse aux pensées orientales, au bouddhisme, et petit à petit, sa conscience religieuse sera de plus en plus aiguë, oui.
En 1964, Coltrane enregistre A Love Supreme, qui a d'ailleurs inspiré le titre de votre biographie, L'Amour Suprême. C'est l'œuvre ultime de Coltrane ?
D'une certaine façon, oui, c'est là où toutes les forces de sa musique sont synthétisées. Et c'est ce grand chant d'amour du divin. C'est un projet très spécial dans le parcours musical de Coltrane. Il en a assez peu parlé, mais c'est ce vaste chant mystique qui nous est offert et qui, à chaque écoute-réécoute, garde sa fraîcheur et sa force.
En 1965, John Coltrane était de passage en France, au festival d'Antibes-Juan-les-Pins, où il présentait justement A Love Supreme. Et nous avons retrouvé cette archive, présentée sur scène par André Francis, le monsieur jazz de l'Office de Radio-Télévision Française à l'époque.
Place à quatre musiciens qui sont parmi les plus importants du monde contemporain dans le domaine du jazz. À la batterie, Elvin Jones. À la contrebasse, Jimmy Garrison. Au piano, McCoy Tyner. Et le saxophoniste, John Coltrane. John Coltrane interprétera un thème, enfin une composition en plusieurs mouvements qu'il a enregistré récemment en disque aux États-Unis. Le titre en est Love Supreme.
Mignoni, vous reconnaîtrez avec moi que ce n'est pas une musique facile, cette œuvre de John Coltrane.
C'est une musique qui n'est pas forcément facile, mais elle est ample, elle est extrêmement large, elle est extrêmement lyrique, et elle, je pense, elle peut être accueillie par des oreilles généreuses.
Deux ans plus tard, le 17 juillet 1967, John Coltrane nous quittera à seulement 40 ans. Et vous terminez votre récit en citant Coltrane qui dit « Un jour, je trouverai les réponses ». Est-ce que l'épopée de Coltrane reste un mystère? Une succession d'interrogations?
Oui, c'est ça. Coltrane, c'est un parcours fulgurant. C'est la question de la vie, du mouvement de la vie et le mouvement de la création. La grandeur de Coltrane, c'est d'avoir été en question, de ne s'être jamais arrêté en chemin. Il a créé un chemin qui est assez unique, assez exceptionnel, mais en chemin, il a toujours été en question, il n'y a pas de certitude, et donc l'homme en chemin.
Pour conclure, je propose d'écouter John Coltrane lui-même parler de sa musique au micro de Carl-Erik Lindgren de la Radio Nationale Suédoise le 22 mars 1960 à Stockholm.
The reason I play it sounds angry because I'm...
Il y a une explication aux notes rageuses que je joue. J'essaye d'exprimer tellement de sentiments au même moment. Je recherche les émotions qui me paraissent essentielles. Je ne cherche pas forcément à jouer de belles notes, même si je m'efforce de trouver la meilleure tonalité. En fait, je m'attache davantage au lyrisme d'une mélodie. La beauté pour moi passe par le lyrisme d'une interprétation.
You know, that's what I mean by beautiful, right? More lyrical.
Quelques notes de Naïma, John Coltrane en 1960 sur l'album Giant Steps. Franck Medioni, ce fut un réel plaisir de partager ce moment coltranien avec vous. Tous mes voeux de succès pour cet ouvrage dont je rappelle le titre, John Coltrane, l'amour suprême, paru chez Castor Music. Merci à vous.
Merci à vous.
L'émission du jour était réalisée par l'impeccable et fort talentueuse Pauline Leduc, avec le concours précieux de Mathias Taylor et Christophe Paget. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.